Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. Alors après les heures de tension, de drame, d'émotion, après le raz-de-marée historique dans les rues ce week-end et singulièrement ce dimanche à Paris, dans ce climat encore d'unité nationale, bref, après cette semaine hors normes, quelles leçons tirer, comment réagir, quelles réponses apporter? On en parle ce soir avec Hervé Morin, député centriste de l'UDI, ancien ministre de la Défense. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à mes côtés dans ce studio aussi, Christophe Forcari de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Question très simple à Hervé Morin, ces derniers jours, depuis notamment l'attaque de Charlie Hebdo, comment vous les avez vécues? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Je vais dire la même chose que tout le monde, parce que je crois que ça a été dit sous toutes les formes. On a eu, dans l'histoire de chaque personne, il y a des moments clés dont on se souvient. Tout le monde se souvient de ce qu'on faisait le 11 septembre. Je me souviens exactement ce que je faisais, moment de joie, là, en revanche, le 9 novembre 89, au moment de la chute du mur de Berlin. Et ce moment-là, on l'a tous vécu. Moi, j'ai jamais passé autant de temps devant une télévision. Tellement j'étais frappé de stupeur. Quoi. Tellement je me disais, ces nuages qui s'amoncelaient depuis des mois et des années sur un pays qui se fracture, ça y est, on y est, quoi. On y est. Et en même temps, on se disait, mais comment, moi, est-ce qu'il y a, comment des enfants nés dans nos hôpitaux, ayant grandi avec le drapeau tricolore, ayant été dans l'école de la République avec ses failles et ses faillites, mais dans l'école quand même. Comment ces enfants peuvent en arriver à haïr autant notre modèle de démocratie, imparfait, mais qui est tout de même le meilleur des modèles. Comment peuvent-ils en arriver à un tel niveau de haine à l'égard des autres, à l'égard des juifs qu'est-ce qui peut nous mener à cela? Et en même temps, dans un pays aussi qui donne si souvent le sentiment d'être avachi, ayant perdu ses repères, la conscience, il y a eu un formidable ressort, une prise de conscience collective, un socle de valeurs qui a été rappelé. Dimanche soir, on avait envie d'y croire. Ouais, d'y croire à l'unité. Je vous jure, moi, j'ai eu 100 fois les larmes aux yeux durant 4 jours parce que je suis pas dépressif du tout, pourtant. C'est tellement magique. Et je pense que le pays avait d'autant plus besoin de ça qu'il est tellement pessimiste, tellement en proie au doute que là, il avait envie de se dire, on va.
Vous étiez dans la rue, vous, dimanche?
Bien sûr, j'étais dans la rue dimanche, j'étais dans la rue jeudi. Quand vous pensez à la sous-préfecture de Bernay, ça dit rien pour les auditeurs des RFI France 24. Sous-préfecture de l'Ouest de l'Eure, en pleine Normandie. Il y avait 2000 personnes un jeudi. Nous avions décidé ça le matin avec le maire de Bernay. Le soir, 2000 personnes. Les Normands, ils sont plutôt pudiques, ils vont pas forcément facilement dans la rue. Ils étaient là. Et ils sont restés une heure dans le froid. Voilà.
Et dimanche?
Ah, puis dimanche, voir tous ces gens applaudir même des politiques, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Ils sont dans c'est toutes ces façades avec je suis Charlie, nous sommes Charlie, ces gens sur les. Voilà, et puis on avait envie de croire à ce moment magique d'un pays qui tout d'un coup se redresse et est debout.
Alors justement, oui, sur ce message, ce qui s'est passé, on a parlé de sursaut républicain, de retour de l'esprit de 1789, on se demande un peu...
Attention, ouais. Liberté, mais immense demande de sécurité.
Alors justement, on va d'abord écouter Hervé Morin... la manière dont François Hollande a perçu le message de ce dimanche.
Clarissa, Franck, Ahmed sont morts pour que nous puissions vivre libres. C'est ce que des centaines de milliers de nos concitoyens ont voulu exprimer en défilant dimanche partout en France, en se levant en masse pour partager votre chagrin, pour affirmer leur attachement à la liberté, à la démocratie, à la fraternité.
C'était ce que disait le président ce matin lors de l'hommage aux trois policiers tués à la préfecture de police de Paris. Christophe Forcari, Libération, une question.
Oui, moi je vais être un peu provoquant, mais est-ce que vous, pas Hervé Morin personnellement, mais l'ensemble de la classe politique, demain, allez être à la hauteur de ce qui s'est passé ces derniers jours et surtout lors des manifestations de dimanche? Il y a un appel de la population française à une cohésion, à une union nationale. Saurez-vous la faire, même pour des choses moins graves et sans conséquences aussi douloureuses et tragiques?
Monsieur Forcari, il y a en effet un moment d'union nationale. Mais l'union nationale n'interdit pas et n'empêche pas le débat démocratique. J'ai écouté Manuel Valls cet après-midi.
Et on va longuement en parler la deuxième partie de cette émission.
Honnêtement, il a été vraiment bon, quoi. Voilà, on peut pas dire le contraire. Comme quoi, la politique s'écrit dans les moments tragiques et on reconnaît les hommes d'événements tragiques. C'est là où on voit s'ils sont à la hauteur du débat, quoi, et du sujet. Et il l'a été. Bon, voilà, on peut pas dire autrement. Il n'est que Premier ministre, si je puis dire, puisque c'est en France, dans cette monarchie républicaine, c'est le chef de l'État qui décide de tout. Il va falloir désormais qu'il soit à la hauteur sur la réponse. Alors, le discours de Manuel Valls donne espoir sur la force de la réponse, parce que n'oubliez pas que derrière l'Union, il y avait chez beaucoup de Français une vraie demande, non pas de sécurité au sens classique du terme, elle existe, mais c'est pas ça. Une demande pour que nous ayons des réponses fermes à l'égard de ceux qui contestent notre modèle de société, qui le haïssent ou qui veulent le remettre en cause. Et il y a, faut le dire, il y a une inquiétude dans la société française, pas chez les racistes, chez beaucoup d'entre nous, sur la radicalisation d'une part infime de l'islam qui inquiète nos compatriotes. Et les compatriotes veulent une réponse à cela.
Rosine Fay, France 24.
Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus dans cette union nationale, dans cette union sacrée qu'on voit aujourd'hui et qui, dans le fond, emmène tout le monde, que ce soit citoyen, intellectuel, religieux, journaliste, est-ce qu'il n'y a pas non plus un effort de reconnaissance sur les erreurs du pacte républicain, de la République, par faiblesse, par laxisme, par démagogie. Laissé pourrir les quartiers, on a laissé pourrir des pans entiers de notre société, de l'éducation.
On a laissé pourrir des quartiers et en même temps, on n'a pas eu le courage aussi parfois de dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables. On a été faible et parfois lâche sur les principes fondamentaux de la République qu'on a laissé piétiner tranquillement sans réagir. Et en même temps, moi, je vais prendre un exemple concret. J'ai été visité il y a je sais pas combien, 3 ou 4 ans, un quartier nord de Marseille, parce que un militant de l'UDI était leur avocat, donc je pouvais y aller, et uniquement parce que c'était lui, parce qu'il était leur défenseur dans le cadre de Tours amiantées. La République avait disparu du quartier, l'école ne faisait plus fonction, le commissariat de police n'existait plus, la poste était à une demi-heure, plus un politique n'osait y foutre les pieds. Et donc on laissait ce quartier à la dérive de trafic, de mafieux, et l'islam radical y trouve tous les vecteurs pour pouvoir s'ancrer. Et en même temps, j'applaudis dès demain Manuel Valls quand il explique que les hussards de la République, ils sont là pour rappeler aux enfants de la République que il y a des choses qui ne sont pas acceptables et que voilà, c'est tout.
Mais même tout simplement, Hervé Morin, il n'y a pas eu cette émotion nationale, par exemple, lors de l'attaque de Mohamed Merah contre l'école aux Aratora à Toulouse en mars 2012. Comment vous expliquez cette différence de réaction?
Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est probablement l'accumulation, ce que représentait Charlie Hebdo. Moi, j'ai lu Charlie Hebdo pendant des années quand j'étais étudiant. Ça fait partie de la culture et de l'identité française. Il y a cela. Après, bien entendu, ce Koulibaly qui veut aller tuer des enfants juifs, puisqu'a priori c'est le cas, mais enfin qui va quand même dans un supermarché cachère. C'est probablement la conjonction, mais il y a deux choses, ce que je dis régulièrement quand on m'interroge.
Et l'attentat par l'image aussi,
je n'accepte pas, c'est le discours misérabiliste qui consiste à dire que tout ça est un phénomène lié à des causes sociales. Bien sûr que tout ça joue.
Mais vous avez entendu ça récemment
100 fois.
Non, mais là, maintenant.
Non, mais j'entends de toutes les personnes qui passent sur tous les plateaux de télé. Voilà, des enseignants expliquant qu'il manque de moyens, que les classes sont surchargées. C'est plus sujet, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. C'est pas ça la question. Donc je refuse l'idée que parce qu'on est orphelin ou parce que la vie est difficile qu'on devient un assassin et une brute sauvage. Et deuxièmement, je refuse qu'on le fasse plus encore au nom d'une religion qui ne mérite pas ça. Et deuxièmement, je refuse aussi l'idée, aussi entretenue parfois, que j'entends de loup solitaire. Quand vous avez Mohamed Merah, quand vous avez eu avant le gang des barbares, quand ensuite vous avez Nemouche, quand vous avez, ne l'oubliez pas, un Français de mon département, de la campagne, qui assassine sauvagement un Américain. Et pour terminer cela, je suis désolé, il y a bien un phénomène qui est une nébuleuse terroriste, profitant de la pauvreté intellectuelle et mentale de ces individus, mais qui existe et qui cherche à détruire notre modèle de société.
Christopher Carey.
Est-ce qu'il n'y a pas une lâcheté, voire un déshonneur de politique dans certains départements, en Seine-Saint-Denis?
Je suis d'accord. Je sais ce que vous allez dire.
En Seine-et-Marne. Qui encourage.
Je sais pas si c'est Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, mais enfin bon.
D'autres, dans la banlieue parisienne, là où on sait qu'il y a de fortes populations immigrées, ou venant issus d'immigration, qui jouent la carte du communautarisme uniquement pour des visées électorales.
Je suis d'accord avec vous. Je peux pas vous dire autre chose. Je suis d'accord avec vous. Les maires, les élus locaux, qui organisent leur ville en laissant place au communautarisme, en passant des accords avec quelques barbus ou autres, leur permettant de faire tranquillement leur trafic en tout genre.
Malek Bouti l'a dénoncé cet après-midi
Malek
dans
Bouti
une interview.
Malek Bouti propose de mettre certains quartiers, ces fameux quartiers qui sont en général qualifiés zones de non-droit, sous tutelle directe de l'État,
voilà.
Par exemple. Pensez que c'est une solution?
Je veux qu'on prenne le temps, je veux qu'on se donne quelques semaines, quelques mois pour réfléchir. Il faut qu'on ait un retour d'expérience sur ce qui s'est passé en termes... Pardon, c'est l'ancien ministre de la Défense qui parle. C'est-à-dire qu'on se dise, bon voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les moyens qui nous ont manqué, quelles sont les failles. On réglera jamais tout, mais au moins qu'on tire les conséquences. Et deuxièmement, qu'on prenne le temps, 2-3 mois, pour régler les choses. Mais je suis d'accord avec Christophe Forcari, complètement d'accord. C'est pas souvent que je suis d'accord avec un journaliste de Libération, mais
faudrait pas que ça se reproduise trop souvent.
Voilà.
Il
y a des comportements coupables. Est-ce que, par exemple, on permet à une femme voilée de siéger à un conseil municipal?
Vous pensez à qui?
Je parle personne, mais vous faites votre boulot.
Ah bah, voilà. On y pensera.
Voilà, quand vous avez des campagnes qui sont organisées à partir de d'islamistes radicaux pour, dans des lieux de prêche, faire en sorte que les élections soient gagnées, parce que ça existe, tout ça, eh bien, tout ça nous mène aussi à cette dérive qu'aujourd'hui, qu'on prend dans la figure.
Vous avez parlé de prendre le temps, d'avoir
oui,
ces fameux retours d'expérience.
Au
Front
10
National,
ans, hein.
On n'a pas pris ce temps-là, puisque assez rapidement, Marine Le Pen est revenue sur le débat sur la peine de mort. Elle a fait qu'est-ce que vous avez pensé de l'absence du Front National à cette manifestation dimanche? Est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit là? Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de leur réaction
après
les événements?
J'ai pensé stupide le fait de, dans un premier temps, d'exclure le Front National. Je l'ai dit d'ailleurs.
Ils ont été exclus.
Ouais, enfin,
c'est
ce qu'on a au début. Puis après, il y a eu les mots du président de la République, je ne sais plus qui, enfin d'un certain nombre de responsables socialistes qui en clair disaient, bon ok, voilà, si vous êtes là, tout le monde est là, je ne sais plus ce qu'a dit François Hollande, a dit tous les citoyens qui souhaitent venir peuvent venir. Donc, voilà, là elle aurait dû dire, ok, je viens, je pense qu'elle a fait une erreur. Mais bon, pour une fois qu'elle en fait une.
Et alors juste, on parle beaucoup d'unité nationale. Il y a eu cet autre sujet, cette photo de dimanche. Hein, beaucoup de dirigeants internationaux qui sont là. Il y a eu des grands absents, les États-Unis qui n'ont pas envoyé de dirigeants de haut niveau qui l'ont regretté. Le Maroc qui n'a envoyé personne. L'ambassade marocaine l'a dit hein, dans un communiqué, c'est en raison de la présence de caricatures blasphématoires du prophète dans le défilé. Alors justement demain, Charlie Hebdo sort en kiosque un numéro spécial en 25 langues, dont la arabe et le turc, avec en une un dessin de Luz. On va l'écouter, nous la décrire.
On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un dessin qui nous fasse marrer, avant tout. J'avais l'idée de dessiner ce personnage de Mahomet, parce que c'est mon personnage. Et donc j'ai dessiné en disant « Je suis Charlie ». Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ».
Alors, ce dessin, voilà, il est en... Christopher Carey nous le montre en studio. Derrière, d'ailleurs, c'est le fameux vers de l'islam qui est en fond. Ce dessin, le grand moufti d'Égypte vient de le condamner. Cette une, a-t-il dit, elle équivaut à un acte raciste qui va inciter à la haine, semer le trouble parmi les musulmans du monde entier. Est-ce que vous craignez pas une coupure possible avec une partie du monde arabe ?
N'exagérons pas. Voilà, on est en France. Bon, voilà. Mais pas en Égypte. Et en France, la laïcité, la liberté de conscience, la liberté d'expression fait que Charlie Hebdo a droit de faire cette une.
Et vous l'appréciez, cette une, vous en pensez quoi ?
Écoutez, moi, j'ai toujours défendu les caricatures de Charlie Hebdo, etc. Donc, j'ai pas changé d'avis aujourd'hui par rapport à hier, c'est clair.
Auriez-vous souhaité entendre un peu plus les représentants du monde arabe, ces chefs d'État, ces intellectuels? Est-ce que vous auriez souhaité qu'il y ait un peu plus de mouvement et plus de soulèvement de ce côté-là?
Rosine Fèvre, j'ai beaucoup apprécié le passage de ma... Tu sais, je vais finir par me demander si je suis pas socialiste, mais j'ai beaucoup apprécié le passage de Manuel Valls où il explique clairement que il y a une responsabilité pour la communauté musulmane, les intellectuels, les imams, pour s'engager, pour expliquer qu'islam et démocratie,
mais ça, je parlais pas ça en France,
marche
hein.
ensemble.
Je parlais de pays arabes.
Je pense que l'essentiel d'abord se situe en France. Voilà, je crois que l'essentiel du débat, il n'est pas avec les pays arabes, il n'est pas avec les pays du Golfe.
Qu'il témoigne aussi de...
Oui, bien sûr, mais bon, écoutez, je pense qu'il ne faut pas les... On a, face à nous, on sait quels sont les problèmes, en vérité, on le sait. Les langues, enfin, appellent un chat un chat.
Qu'est-ce que c'est un chat pour vous? Qu'est-ce que
vous parliez de Malek Bouti. Ben voilà, Malek Bouti dit des choses. Je crois, moi, depuis 3 jours, quand on m'a laissé la parole, que j'ai aussi dit un certain nombre de choses. Et je pense qu'il y a maintenant, on a un rendez-vous face à l'histoire. Parce qu'il faut bien avoir en tête une chose. Je pense que cette période-là est une période de prise de conscience où chacun se rappelle de notre socle républicain. Très bien. Et je pense que, contrairement à toutes les banalités qu'on a pu entendre sur le fait que ça allait permettre au Front National de progresser, je ne le crois pas. Je pense que c'est l'inverse.
Oh.
Oui, je vois que Christopher Carey n'est pas d'accord. Je pense l'inverse. Sur les prochains mois.
Pourquoi vous pensez l'inverse?
Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience collective des valeurs qui sont les nôtres et que ces valeurs-là, de tolérance, de bienveillance, c'est pas celle du Front National. Mais ça durera quelque temps. Le rassemblement autour du chef de l'État, il durera aussi longtemps que lorsqu'on coupe un coquelicot, voilà, donc qu'on le met dans un bouquet, ça il fane très vite. Et donc derrière, il y a une question simple, soit l'exécutif d'abord, parce que c'est d'abord l'affaire de l'exécutif. L'exécutif est à la hauteur de l'enjeu, et il y a les réponses que les Français attendent. Et ça ira. Soit, au contraire, on démontre notre incapacité à trouver des réponses court terme et des réponses long terme. Et là, je peux vous dire, la réaction sera d'une violence absolue.
Ces réponses, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la fin des informations, avec Hervé Morin, ancien ministre de la Défense et député centriste.
Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique, deuxième partie, après l'attentat, après l'émotion, les leçons et les questions. On en parle avec notre invité Hervé Morin, député centriste de l'UDI, ancien ministre de la Défense, avec, pour poser les questions, Roselyne Fèvre de France 24, Christophe Forcari de Libération. Alors l'Assemblée nationale faisait sa rentrée tout à l'heure, pas de questions au gouvernement, évidemment, circonstances particulières. Manuel Valls a fait un discours dans lequel il a annoncé des mesures exceptionnelles et notamment en matière de renseignement. On écoute un extrait.
Nous sommes l'une des dernières démocraties occidentales à ne pas disposer d'un cadre légal cohérent pour l'action des services de renseignement. Un prochain projet de loi, quasiment prêt, visera à donner aux services tous les moyens juridiques pour accomplir leur mission, tout en respectant les grands principes républicains de protection des libertés publiques et individuelles. Ce texte de loi doit être, c'est ma conviction, adopté le plus rapidement possible.
Christophe Forcari de Libération.
Oui, vous avez été ministre de la Défense. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses ces derniers jours, et notamment de la part du président de l'UDI avant le départ de la manifestation.
Qu'est-ce qu'il a
Est-ce
dit
que nous étions en guerre et qu'il fallait que l'État se donne les moyens d'assumer cette guerre. Alors, deux questions. Sommes-nous aujourd'hui véritablement un État en guerre? Contre qui? Et est-ce que le discours de Manuel Valls cet après-midi, que vous avez jugé bon, répond à cette...
Est-ce que c'est à la hauteur de l'événement?
Oui, le discours est bon, on est dans un moment d'histoire, et le discours a été à la hauteur, me semble. Voilà, je l'ai vécu comme ça. Après, c'est un discours sur les principes. Malheureusement, c'est aux actes et aux faits que...
Est-ce qu'il annonce là, sur le renseignement, par exemple?
J'ai envie de lui dire oui, mais j'ai dit, dis-moi ce que tu veux, quoi. Dites-moi ce que vous allez mettre dans le texte. On a déjà adopté toute une série de dispositions. Je me souviens en avoir porté un certain nombre durant le vote de la loi de programmation militaire de 2008. Il y a eu d'autres dispositions qui ont été adoptées, notamment sur tout ce qui est pêche des métadonnées. J'ai augmenté, moi, au titre de du ministère de la Défense, de mémoire, de 800 à 900 personnels, la DGSE, pour notamment le décryptage, l'analyse des éléments.
Il faut pas élargir le système d'écoute. Vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut davantage de personnes pour le décrypter.
Moi, je suis très attaché aux libertés individuelles. Bon, voilà, c'est mon vieux fond libéral m'amène à être toujours très attentif à cette question. Parce que sur les principes, ça va toujours. La seule chose, c'est après qui les utilise. Voilà. Mmh. Voilà. Et que les pouvoirs passent, et que je me méfie toujours. Quand on ne permet pas... il faut qu'il y ait un système de contrôle... Que le pouvoir arrête le pouvoir sur ces sujets-là. Il doit y avoir un système segmenté de décision où entre celui qui propose, celui qui donne son avis, celui qui décide, comme on l'a aujourd'hui avec la loi de Michel Rocard, qui sur le fond de 92, a été bien conçue. Moi, j'ai été ministre de la Défense, donc les demandes d'écoute, on en a fait, bien entendu, on en faisait chaque semaine, c'est mon directeur de cabinet qui gérait ces histoires. Je trouvais bien l'idée que le ministère de la Défense puisse demander au titre du renseignement extérieur, puisque nous, on n'est pas sous renseignement
typiquement
intérieur.
Typiquement, Hervé Morin, ce qui est soulevé, c'était de dire que dans le cas les cas qui nous occupent, les coups de fil, probablement, ont été passés entre les épouses qui, elles, ne sont pas surveillées.
Oui, d'accord, mais bon... peut-être, mais est-ce que les coups de fil ont été passés entre les épouses? Mais il peut y avoir aussi une autorité judiciaire à qui on puisse donner les moyens pour qu'immédiatement.
Donc détendre le
voilà.
Système.
Enfin, je veux qu'on regarde les choses avec beaucoup d'attention parce que c'est une affaire très lourde, très difficile. Et je ne voudrais pas que nous fassions.
Comme les Américains, des lois d'exception.
Ce que je veux dire, c'est que un dispositif peut tout à fait, voilà. Après, les pouvoirs se succèdent et on peut tout à fait avoir des personnes mal intentionnées qui décident d'utiliser ça à tort et à travers. Ouais. Et donc, je me méfie. Si la personne l'utilise avec la rigueur et la conscience, ça pose pas de problème. La seule chose, c'est que dès lors que vous attribuez les pouvoirs, vous savez qu'il peut y avoir des dérives. Et donc, je me méfie toujours de cela.
Donc, méfiance sur les écoutes. Roselyne Fèvre.
Non, je veux qu'il y ait un cadre clair qui permette de donner des garanties fondamentales aux citoyens. Voilà.
Christian Jacob a dit effectivement nous sommes en guerre et il dit faut faire un effort de guerre, faut faire un effort budgétaire. Et il a demandé la révision de la loi de programmation militaire. Qu'en pensez-vous, vous, ancien ministre de la Défense ?
La loi de programmation militaire, elle est déjà obsolète. Donc, on peut la réviser. La seule question, c'est qu'il faudrait que François Hollande, sur la loi de programmation militaire, analyse un certain nombre d'éléments. Il y a deux points, mais sur lesquels il n'a pas le courage d'aller. Le premier point, c'est en effet de revoir la construction de l'armée française. Pour moi, elle doit se bâtir autour d'un corps expéditionnaire qui soit en capacité, en autonomie stratégique complète. Aujourd'hui, on n'est plus capable d'aller au Mali seul. On dit être une des puissances militaires globales de la planète. En vérité, on a tellement de trous capacitaires qu'on a besoin de faire appel aux Américains systématiquement. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'au contraire, on concentre les moyens dans un corps expéditionnaire qui permette à la France, en autonomie, sans demander à personne, de pouvoir envoyer 8 ou 10 000 hommes sur un théâtre d'opération extérieure, et qu'après on considère qu'on n'a plus que des briques capacitaires, c'est-à-dire des capacités militaires sur tel ou tel point, qu'on met dans des coalitions, parce que c'est qu'après on intervient dans le cadre de coalitions dans lesquelles souvent il y a des Américains.
Mais par exemple,
de l'Alliance Atlantique. Puis il y a un deuxième point, c'est que comme les moyens budgétaires sont limités, il faudrait qu'à un moment ou un autre, on finisse par oser toucher à ce tabou incroyable qui est la question du nucléaire. Parce que au rythme où on est parti, le nucléaire va représenter 35 ou 40% des crédits d'équipement dans 10 ans, ce qui n'a plus aucun sens. On va être la Corée du Nord. Et donc, ce qu'il faut, c'est que nous réorientons une partie de nos capacités, nos moyens accordés au nucléaire pour ne conserver qu'un élément de dissuasion, que la force stratégique, la force océanique stratégique, que nous supprimions la force aérienne et que ces moyens ainsi dégagés nous permettent d'améliorer notamment nos moyens sur le renseignement, sur l'observation, parce que on a très peu de drones. Dès lors qu'on a, on a vécu ça, moi j'ai vécu ça avec toutes les prises d'otages, très compliqué d'aller récupérer le renseignement quand on est au milieu de l'Afrique. Donc voilà.
Est-ce qu'il ne faut pas que les Européens aussi participent?
Mais
à
les
cette
Européens, ils ont démissionné. Ils démissionnent. Ils ont décidé de faire assurer leur sécurité par les Américains. C'est un Européen qui vous le dit. J'ai tout fait en 2008 lorsqu'on a eu la présence française pour lancer des tas de sujets. Alors on était 3 pays, on était 4 pays, on était 5 pays.
C'est une cause perdue. Quand François Fillon ce matin dit qu'il faudrait que l'Allemagne et l'Italie ne se contentent pas de venir à une manifestation dimanche, c'est pas
oui,
pour
mais il
seul
a raison.
De tout compte.
Il a raison. Sauf que les Allemands ont démissionné sur leur capacité militaire.
Donc vous n'y croyez pas à ça,
à j'y crois pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique suffisamment forte. Moi, je rêverais un jour d'un président de la République française et d'un chancelier allemand, puisque tout se fait à partir du couple franco-allemand, quoi qu'on en raconte, et que ces deux-là décident, un, de revoir nos institutions européennes de fond en comble. Enfin, bref, c'est un premier sujet qu'on n'aborde pas ce soir. Et un deuxième qui est de dire, on va construire une Europe de la défense. Mais il faudrait que les Allemands sortent de l'abandon dans lequel ils ont laissé leur outil militaire.
C'est des nains militaires, les Allemands.
Pardon ?
Ce sont des nains militaires.
Mais finalement, au rythme où on est parti, nous, on va bientôt avoir une armée conventionnelle qui va bientôt plus être beaucoup plus puissante que celle des Allemands, puisqu'on a fait beaucoup d'impasses depuis quelques années.
Non, mais on parlait de budget, c'était notamment ce que
Oui, mais parce que nous, on consacre beaucoup plus d'argent, Roselyne Febvre a raison, que les Allemands sur notre défense, mais bon, ils ont un PNB aussi qui est plus élevé que le nôtre. Donc au pourcentage, quand on remet ça en valeur absolue, on n'est plus si loin. Et en plus, comme eux, ils n'ont pas le nucléaire, en fait, ils mettent tout sur le conventionnel.
On est en droit, on est fondé à imaginer qu'on nous demande beaucoup moins de rigueur compte tenu de toutes ces contraintes.
Enfin, l'économie, les déficits budgétaires, la capacité de la France à renouer avec la croissance, ces sujets-là vont revenir à l'ordre du jour, chère madame, dans quelques semaines. Parce que les Français, ils connaissent toujours 30 000 chômeurs de plus par mois, malheureusement.
Christopher Carré, Libération.
Trois questions en rafale. La première, c'est, vous n'avez pas répondu, considérez-vous que nous soyons en guerre? Deuxièmement, pouvons-nous assumer cet effort alors que nous sommes déjà sur des théâtres
d'opéra. Oui, en réorganisant les choses.
Des théâtres, vous avez à peu près répondu.
Merci.
Et troisièmement, est-ce que ça ne nous amène pas aujourd'hui à reconsidérer l'ensemble de notre politique extérieure? On voit déjà qu'il y a quelques polémiques qui pointent en disant les relations avec le Qatar, les relations avec l'Arabie Saoudite, c'est peut-être pas... voilà, l'amitié franco-qatarine n'est peut-être pas celle qui est la
déjà,
meilleure aujourd'hui.
Déjà, on nous donne les preuves, d'accord. Deuxièmement, est-ce que c'est les États? Pas forcément. Ça peut être des personnes ou des groupes, plutôt que des États. Et troisièmement, ceux qui sont les plus menacés aujourd'hui par Daesh, c'est eux. C'est eux. Voilà. L'ennemi de Daesh, c'est autant le monde occidental que les monarchies pétrolières du Golfe.
Si on revient sur les menaces directes sur le territoire français, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites ces derniers jours. Nicolas Sarkozy, par exemple, préconise d'interdire le retour en France des hommes et des femmes partis faire le djihad plusieurs mois à l'étranger, y compris s'ils sont français. Pratiquement, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous reprendriez cette proposition à votre compte?
J'ai beaucoup de mal à l'idée de rendre des compatriotes apatrides. Et en même temps, j'ai envie de leur dire que s'ils considèrent que la vie est meilleure ailleurs, notamment parce qu'ils ont commis de tels actes, mais au moins je considère que là, il y a deux questions. Il y a des questions de fond, celles que j'évoquais au début, comment un jeune Français peut devenir une bête de sang. Bon, ça c'est le premier sujet, après toutes les problématiques, les banlieues, les quartiers, l'école, etc. Bon, la laïcité. Et puis il y a l'immédiateté. L'immédiateté, c'est d'une part des moyens de sécurité supplémentaires, ce qu'a annoncé Manuel Valls avec Vigipirate, les militaires, etc. Mais enfin, ça ne durera qu'un temps, on ne va pas pouvoir les laisser pendant des années comme ça. Bon. Et puis il y a l'autre question, que sont les terroristes ou les graines de terroristes qui sont des Français, qui sont partis faire le djihad, on dit qu'ils seraient autour de 5000 dangereux. Bon, cela, il faut qu'on ait un traitement pénal, des procédures. Est-ce que ça passe lorsqu'ils arrivent sur le territoire national immédiatement par une mise en, par une garde à vue, par des centres de rétention, on voit bien bon.
Est-ce que l'encellulement individuel déjà c'est bien?
Oui, mais ça veut dire qu'il faut que il faut que la garde des Sceaux arrête de nous raconter qu'il faut pas construire des places de prison, parce que excusez-moi, sans vouloir faire de polémique, si vous décidez de faire de l'encellulement individuel, moi qui étais membre de la commission d'enquête sur les prisons, quand vous êtes 10 par cellule, que tout d'un coup il faut passer à 1 par cellule, ça veut dire qu'il y a des programmes, et de toute façon on manque de places de prison. Je ne suis pas un pénitentiaire tout grain, mais il faut quand même que les Français sachent, on dérive un peu du sujet, c'est que les peines de prison de moins d'un an, voire de moins de deux ans, ne sont plus exécutées en France. Elles ne sont plus exécutées. Le juge prononce des sanctions qui ne font l'objet d'aucune exécution faute de place. Ça c'est un premier sujet, mais le second, si on évoque la question des terroristes ou des graines de terroristes, cela, ça veut dire qu'il faut construire plusieurs milliers de places de prison supplémentaires. Et il y a aussi, bien entendu, toute la question de la fonction de la prison, qui est un lieu de sanction, mais qui doit être aussi un lieu où on doit favoriser, à un moment ou à un autre, la réinsertion, et que c'est l'intérêt de tous. Et c'est d'abord notre intérêt. Ce que je n'arrête pas de dire à mes compatriotes quand ils m'interrogent sur la prison, je dis, c'est pas de construire des hôtels 4 étoiles. La question, c'est de faire en sorte que le type qui sorte de prison, qui un jour, quoi qu'il arrive, sortira de prison, qu'il ne soit pas à nouveau un délinquant, un criminel ou pire, un terroriste. Et donc, il y a là une politique pénale et une politique pénitentiaire. Ça fait 20 ans que la France aborde le sujet. On a fait 3 commissions d'enquête. Les conclusions ont toujours été les mêmes, quelles que soient les majorités. La seule chose, c'est qu'on ne l'a jamais fait.
Rosine Fèvre, France 24.
Il y a le sujet de l'endoctrinement via les réseaux sociaux, donc via des filières qui sont un peu partout, au Yémen, en Irak, partout. On a connu Ben Laden et sa franchise qui visait les États-Unis. Aujourd'hui, Daesh. Aujourd'hui, vous portez quel regard, vous, sur cet État islamique? Vous feriez une différence aujourd'hui entre Al-Qaïda, Daesh?
Daesh est en train de prendre la main, si je puis dire. Ça devient malheureusement la référence, si je puis dire. Hein. Bon, On voit bien qu'on a changé de modèle parce que Daesh se comporte, j'allais dire, comme un État, comme une organisation non pas simplement terroriste, mais comme quelque chose qui veut créer des institutions. On lève l'impôt dans les dans les territoires de Daesh. Voilà, pour dire les choses simplement. Quand je suis arrivé en 2007 à l'hôtel de Brienne, c'était au ministère de la Défense, j'ai encore en mémoire cette note des services de renseignement qui nous disait que sur la zone sahélienne, il y avait à peu près 500 terroristes, 500 Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était en 2007. Combien sont-ils aujourd'hui ? Voilà. Donc il y a une progression considérable, et donc cette guerre contre le terrorisme qu'évoquait Christophe Forcari, qu'évoquait le Premier ministre dans son discours de cet après-midi, elle existe, voilà, clairement.
Et vous comprenez cette propagation comme ça,
On en connaît tous les causes, la misère, le sous-développement, la corruption, tous ces facteurs divers et variés, l'absence de résolution du conflit israélo-palestinien, enfin, on connaît tout ça.
Je reviens sur ce qu'a proposé Manuel Valls cet après-midi. Il y a aussi il y a ce qu'on peut faire en France, il y a aussi ce qu'on peut faire de manière coordonnée sur le plan de l'Europe. Est-ce que tous les ministres de l'Intérieur qui sont réunis dimanche ont appelé le Parlement européen à débloquer un projet qui est en cours, c'est-à-dire d'avoir une base de données des passagers aériens? Vous venez nous dire qu'il fallait être très très attentif sur les libertés individuelles, mais est-ce que pour le coup, vous pensez que ça, c'est une mesure qui pourrait être efficace?
Et est-ce qu'il faut suspendre un temps Schengen? L'espace Schengen.
Schengen, c'est... Je réponds après votre question. Je veux dire, Koulibaly, c'est pas Schengen, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Que si, qu'il puisse y avoir des risques, qu'il y a une immigration clandestine liée ou irrégulière liée aux faiblesses de Schengen, c'est une évidence. Qu'il y a probablement besoin de d'améliorer... Quoi, il y a besoin d'améliorer le dispositif, ça fait absolument aucun doute. Mais ceux-là, ce sont des terroristes nés en France. Ils viennent pas du fin fond de l'Afrique. Hein. Voilà, ils viennent du fin fond de la France, si je puis dire. Arrêtons de considérer que tout ça vient de l'étranger. C'est d'abord, si je puis dire, endogène. Bon. Et deuxième chose, donc vous évoquiez ce projet
qui permettrait très concrètement que des personnes identifiées comme étant à risque ne puissent pas partir pour des zones
difficile.
Dangereuses.
Difficile. Je me souviens d'avoir eu des réunions sur ces sujets-là quand j'étais au gouvernement. C'est un projet très difficile à mettre en place, très lourd, très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas le faire seul, et que quand on a essayé de le faire seul, on n'y arrivait pas, ça donnait pas les résultats, et que donc il faut absolument une coordination européenne. Et là, sur ce sujet-là, il faut qu'on avance. Voilà, c'est
tout. Vous retrouvez dans l'appel des ministres de l'Intérieur.
Oui, mais bien sûr, il faut qu'on avance. Mais ça ne peut pas se faire sans les autres Européens, parce que sinon, c'est peine perdue.
On arrive vers la fin de cette émission, Hervé Morin. Une petite question, Charlie Hebdo est tiré à 3 millions d'exemplaires. Demain, il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits chez leur buraliste, leur kiosquier en liste d'attente. Vous allez l'acheter, vous, demain ?
J'en ai commandé 3.
3 pour ?
Ma femme m'a dit 3. J'ai dit pourquoi ? Elle m'a dit 1 pour le garder, 1 pour notre fille et 1 pour notre fils.
Voilà. Bon, éventuellement, vous...
Et je vous précise que ma fille a 15 mois et mon fils 6 ans. Donc voilà.
Vous abonnez ? Vous le feriez ?
Attendez.
déjà, il l'achète pour la première fois.
Mais bon, j'ai dit, parce que j'ai eu la même question que vous, pourquoi 3 ? Elle m'a dit 1, parce qu'il y a un, c'est... Voilà, c'est un moment d'histoire, un moment où on a tous été touchés. Et 2, pour nos enfants, pour qu'ils sachent un jour que la France a vécu tout cela.
Voilà, merci Hervé Morin, député centriste de l'UDI, ancien ministre de la Défense. Merci à nos partenaires Libération et France 24. C'est la fin de Mardi Politique réalisé par Mathias Golcheny. Un grand merci aussi à Audrey Yatteny pour la préparation de cette émission. Rendez-vous à tous à la même heure la semaine prochaine.